Chapitre 34 Continuation et fin de cette mémorable aventure. Don Quichotte ayant juré qu'il détruirait tous les maléfices de Malembrun, la Doloride revint de son évanouissement. « Indomptable héros, dit-elle, mon âme, prête à s'échapper, s'est arrêtée à vos accents. Je renais à la vie pour vous applaudir et vous donner les moyens d'ajouter à votre gloire. Sachez que d'ici au royaume de Candaya, l'on compte 5 000 2-3 lieues par le grand chemin de terre, mais en allant par les airs, on n'en compte guère que 3 227. Le cruel Malembrun nous a dit qu'au moment même où nous aurions trouvé le chevalier que nous cherchions, il lui enverrait le fameux cheval de bois que montait Pierre de Provence lorsqu'il enleva la belle Maguelonne. Ce cheval, qui n'est point ferré, qui ne mange, ne dort jamais, se dirige par une cheville plantée au milieu de son front. Plus rapide que la pensée, il vole au-dessus des nuages. C'est le chef-d'œuvre du savant Merlin, ami de Pierre de Provence. Malembrun, par un effet de son art, s'est rendu maître de ce coursier sur lequel il traverse le monde, arrive le matin en France et le soir même au Pérou. C'est une monture si douce que la charmante Maguelonne ne se trouvait en aucun lieu aussi bien assise, si à son aise, que sur la croupe de ce cheval. J'espère, je ne doute point qu'avant une demi-heure vous ne le voyez arriver pour vous porter devant Malembrun. « Combien tient-on sur ce cheval ? » demanda Sancho d'un air inquiet. « On y tient deux, répond la Doloride, l'un sur la selle et l'autre en croupe. Son nom est Chevillard le Léger, qu'il mérite assurément puisqu'il est de bois et qu'il vole. « Eh bien, je suis le serviteur de Monsieur Chevillard le Léger, mais j'ai l'honneur de vous déclarer que je ne monterai point sur sa croupe. Pardi oui, moi qui ai de la peine à me tenir sur mon âne, dont le bas tout neuf est plus doux qu'un petit matelas de soie, vous pensez que, sans mon coussin, j'irai faire 3 000 ou 4 000 lieues à cheval sur un soliveau ? Oh que nenni ! Oh que nenni ! Je prends assurément beaucoup de part au malheur arrivé à votre menton, mais je ne puis risquer de me casser le cou pour le plaisir de vous voir raser. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que je suis déjà retenue pour désenchanter Madame Dulcinée. Cependant, aimable Sancho, il est arrêté dans les destinées que rien ne peut se faire sans vous. Rien ne se fera donc, Madame la Doloride, car il est arrivé dans ma volonté que je ne suivrai point mon maître. Nous autres écuyers ne sommes jamais pour rien dans toutes ces aventures. Vous savez que les historiens, en rendant compte des belles prouesses de nos maîtres, ne parlent non plus de nous que du grand Turc. Je ne le trouve point mauvais, mais je ne veux point me mêler d'une affaire qui ne me regarde pas. À l'entrée dans la nuit, on vit paraître dans le jardin 4 sauvages demi-nus portant sur leurs épaules un grand cheval de bois. L'un d'eux le pose à terre sur ses 4 pieds et s'écrie d'une voix grave. Le valeureux Malembrun engage sa parole à celui de vous assez hardi pour le combattre, de n'employer contre lui d'autres armes que son épée. Qu'il monte donc sur ce coursier. Que son écuyer monte en croupe. Il leur suffira de tourner la cheville que vous voyez pour être portée à travers les airs devant le redoutable Malembrun. Mais de peur qu'il ne soit étourdi de la hauteur et de la rapidité de la course, il est nécessaire qu'ils aient les yeux bandés jusqu'au moment où Chevillard les avertira par ses hennissements qu'ils sont à la fin de leur route. Cela dit, les 4 sauvages se retirent précipitamment. Et Don Quichotte, plein d'ardeur, veut s'élancer sur Chevillard. Il ordonne à Sancho de le suivre. « Non, s'il vous plaît !» s'écria l'écuyer. « Depuis que j'ai vu la monture, je me soucie encore moins du voyage. Je ne suis pas un sorcier pour voler ainsi sur un bâton. Et que penseraient mes insulaires quand ils sauraient que leur gouverneur perd son temps à courir dans l'air ? D'ailleurs, il y a 3 000 lieues d'ici au pays de Candaya. Lorsqu'une fois nous serons là, si Monsieur Chevillard est fourbu, si le géant ne veut plus nous le prêter, comment revenir, je vous prie? Nous serons au moins 12 ans à faire le chemin à pied. Pendant ce temps, que deviendra mon île? Non, vous dis-je, tout bien réfléchi, je me dois à mon peuple, et je ne puis m'exposer. Saint-Pierre se trouve bien à Rome. Moi, je me trouve à merveille ici. J'y reste. » Mais il ne sut pas résister aux instances de sa bonne amie, Madame la Duchesse, et déclara qu'il était prêt à partir. Don Quichotte court l'embrasser, le tire à part et d'une voix basse. « Mon fils, lui dit-il, nous allons commencer un long et périlleux voyage, pendant lequel je prévois que nous serons sans cesse occupés. Ne pourrais-tu pas, avant de nous mettre en route, te retirer un moment dans ta chambre, sous prétexte d'aller chercher quelque chose, et là, te donner un bon acompte sur les 3300 coups de fouet nécessaires à la félicité de celle qui règne sur mon cœur. Quand tu ne t'en donnerais que 500, ce serait toujours cela, mon ami. Tu sais bien qu'en toute chose, le plus difficile est le commencement. »
« Pardieu, répondit Sancho, vous faites de belles propositions et vous prenez bien votre temps. Je vais parcourir 3000 lieues à cheval sur une planche et vous voulez que je commence par me déchirer le derrière? En vérité, votre seigneurie a perdu tout à fait le bon sens. Finissons d'abord l'aventure des barbes de ces dames. Au retour, nous nous occuperons de Madame Dulcinée. »
En disant ces mots, ils revinrent et Don Quichotte, tirant un mouchoir, pria la Doloride de lui bander les yeux. Quand cela fut fait, il monta sur Chevillard, où ses longues jambes, n'ayant point d'étrier et tombant presque jusqu'à terre, lui donnaient l'air de ces grandes figures que l'on voit dans les tapisseries. Sancho ne se pressait pas pour le suivre et demandait un coussin, mais le coussin lui fut refusé par la sévère Doloride, et Sancho, les yeux bandés, se mit enfin sur cette croupe dure en suppliant toute la compagnie de dire pour lui quelques Ave Maria.
« Poltron ! Lui criait notre chevalier. « Que peux-tu craindre ? N'es-tu pas à la place jadis occupée par la belle Maguelone ? Ne suis-je pas à celle de Pierre de Provence ? Et le courage de ce héros est-il au-dessus du mien ?»
Il tourne à ces mots la cheville. Et sur le champ, toutes les duègnes se mettent à crier ensemble.
« Dieu te conduise, vaillant chevalier. Dieu te conserve, écuyer intrépide. Vous êtes déjà dans les airs. Nos yeux ne peuvent plus vous suivre. Tiens-toi bien, brave Sancho. Si tu tombais, ton horrible chute serait semblable à celle de Phaéton. »
Sancho écoutait et serrait son maître de toutes ses forces. « Tu m'étouffes, disait Don Quichotte. Par Dieu, laisse-moi respirer. »
« Je ne comprends pas ce qui te fait peur. Il n'est point de coursier au monde dont l'allure soit aussi douce. Nous avons déjà fait plus de 1000 lieues et il semble que nous n'ayons pas changé de place. »
« Cela est vrai, répondit l'écuyer, mais je sens de ce côté un vent terrible qui me souffle au visage. » Sancho ne se trompait point. L'intendant du duc avait disposé plusieurs hommes avec de grands soufflets pour donner du vent à nos deux héros.
« Sans doute, reprit Don Quichotte, aussitôt qu'il sentit ce vent, que nous sommes déjà parvenus à la seconde région de l'air, où se forment la neige et la grêle. Si nous allons toujours de ce train, nous serons bientôt à la région du feu, d'où nous viennent les tonnerres. Je ne sais comment tourner cette cheville pour modérer Chevillard. »
À l'instant même, les soufflets furent remplacés par des étoupes enflammées dont on environna les voyageurs.
« Ah, monsieur ! S'écria Sancho. « Nous y sommes dans votre région du feu. J'en sens déjà la chaleur et la moitié de ma barbe est déjà brûlée. Je m'en vais ôter mon bandeau.
« Garde-t'en bien !» répondit Don Quichotte.
« Cette désobéissance nous attirerait quelque grand malheur. Il faut nous abandonner entièrement à l'enchanteur qui nous mène.
« À la bonne heure, monsieur, mais il est temps que nous arrivions.
Cette manière d'aller me fatigue. » Et si Madame Maguelone se trouvait bien sur cette croupe, elle avait la peau plus dure que la mienne. »
Toute cette conversation était entendue par le duc et la duchesse qui pouvaient à peine retenir leur rire. Lorsqu'ils s'en furent assez amusés, l'intendant fit sortir du jardin toutes les duègnes barbues. Et le duc, la duchesse, leurs gens s'étendirent sur le gazon comme ensevelis dans un profond sommeil. Alors on fait tomber nos héros de cheval par une violente secousse, et l'on met aussitôt le feu à la queue de Chevillard, dont le corps était plein d'artifices.
Chevillard saute en l'air au milieu des fusées et des serpenteaux. Don Quichotte et son écuyer se relèvent, ôtant leurs bandeaux, et, tout surpris de se retrouver dans le même lieu, distinguent bientôt une grande lance à laquelle était attaché un parchemin sur lequel on lisait ces mots. L'invincible chevalier de la Manche a terminé la grande aventure de la comtesse Trifaldi, surnommée la Doloride. Il lui a suffi d'oser l'entreprendre. Malembrun se reconnaît vaincu. Le menton des Duègne n'a plus de barbe. Antonomasie et Don Clavigeau sont rétablis sur leur trône. Il ne reste plus à fit dire que la pénitence prescrite au meilleur des écuyers pour que la plus douce des tourterelles soit enfin rendue à son tourtereau. Tels sont les arrêts de Merlin. Don Quichotte, transporté de joie, se hâta d'aller vers le duc, qui paraissait, ainsi que les autres, privé de l'usage de ses sens. « Seigneur, lui dit notre héros en le prenant par la main, revenez à vous, tout est terminé. Vous en verrez la preuve dans l'écriteau suspendu à cette lance. » Le duc et la duchesse, à leur suite, faisant semblant de revenir d'un long évanouissement, racontèrent avec effroi qu'à l'instant où Chevillard en feu était redescendu dans le jardin, la Doloride et ses compagnes, dépouillées de leur barbe, avaient disparu tout à coup, et qu'eux-mêmes étaient tombés sans connaissance. Ils allèrent ensuite lire l'écriteau, félicitèrent Don Quichotte, exaltèrent son courage, et la duchesse questionna Sancho sur les périls qu'il avait courus. L'écuyer, tout fier des éloges qu'on lui prodiguait, répondit qu'il avait beaucoup souffert en passant par la région du feu, qu'il avait même, sans le dire à son maître, relevé tant soit peu le mouchoir qui lui couvrait les yeux, et qu'alors il avait découvert la terre, au-dessous de lui, aussi petite qu'un grain de moutarde. On parut surpris à cette assertion. Sancho, pour la confirmer, ajouta que les hommes, qu'il distinguait fort bien, n'étaient pas plus gros que des noisettes. Il dit encore, car il était en train de raconter une foule d'autres détails sur les merveilles qu'il avait vues, et lorsque Don Quichotte, étonné, voulut lui faire quelques objections, l'écuyer voyageur, s'approchant de son maître, lui dit « Monsieur, je n'ai pas douté de ce que vous avez vu dans la caverne de Montesinos. Ayez la bonté de croire de même ce que j'ai vu dans le ciel. »